Nous allons maintenant parler musique. Parce que, eh bien voilà, on trouvait intéressant de parler de ce clip dont tu vas nous parler, Zitz, pardon. Et tu es donc accompagné de Cash. Alors Zitz, bonjour à toi.
Salut William.
Comment vas-tu?
Salut aux auditeurs. Ouais.
Alors dis-moi, nous, on va peut-être commencer, si vous êtes d'accord, par des questions un petit peu générales sur pourquoi vous en êtes là, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup la musique est apparue comme un surgissement dans vos vies, un surgissement tellement important qu'il fallait... Parce qu'une chose, c'est de chanter, comme on le disait tout à l'heure, sous sa douche ou à la maison, et puis une chose, c'est de composer pour le monde, pour les gens. Parce que ça veut dire qu'on prête également le flanc, et que donc on peut aussi avoir des retours, certes positifs, mais pas que. Donc ça peut des fois compliquer un peu la chose, et c'est d'une certaine manière se mettre à nu, et bah, c'est jamais évident, hein, c'est ça, de se mettre à nu. Alors, Zitz, dis-moi, qu'est-ce qui a fait que tout d'un coup, tu t'es dit, je vais faire de la musique? Explique-nous un petit peu ta vie à l'aune de cette passion.
Alors en fait, quand j'étais toute petite, mon grand-père, qui était encore vivant à cette époque, était lui-même acteur et chanteur. Donc il faisait du théâtre, je le voyais sur scène, il me passionnait à chaque fois, il m'impressionnait.
Il a
follement.
Carrément aussi joué dans un film, hein, ton
aussi,
grand-père.
Aussi, ouais, un vrai film français avec que des grosses têtes. Alors même s'il avait un second rôle, je suis fière, c'est « J'irai au paradis car l'enfer est ici ». Donc on le voit dedans apparaître. Et je le voyais chanter, et puis c'est vrai qu'il m'impressionnait quand j'étais petite, il me faisait pleurer par son émotion, le coffre qu'il avait, etc. Et toujours, je me disais, waouh, comment j'aimerais pouvoir chanter comme lui, etc. Et c'est vrai que j'ai toujours chanté depuis toute petite. Ma mère, elle mettait souvent la musique, ou moi-même, je mettais du Céline Dion. Chanter, c'est très bien, ça développe bien la voix. Les Walt Disney aussi, super, ça, pour s'entraîner, ça donne une voix super à la fin. Et j'ai toujours chanté comme ça. Quand j'étais jeune, je chantais sous les ponts pour l'acoustique. Je mettais mes mains pour bien entendre. Enfin, j'adorais ça, mais ça restait vraiment amateur et pour le plaisir. Et puis, par la suite, ma vie a fait que j'ai pas chanté pendant des années. J'étais plutôt dans le milieu alterno, milieu punk, squat, tout ça. Donc, c'est vrai que j'écoutais plutôt ce genre de musique. Donc, j'étais pas trop dans le chant. Ou alors, chantais dans ma douche encore du Aznavour ou du Edith Piaf, qui sont assez ce que j'aime bien. Pour moi, des vrais. Et c'est que, en fait, bien plus tard, j'ai eu des enfants, tout ça. J'ai fait ma vie, en fait, où j'étais pas trop sur le champ. Et puis, j'étais assez renfermée, mais j'adorais chanter. Quand je chantais, ça me libérait, ça me faisait beaucoup de bien. Ce qui fait que j'ai décidé de prendre des cours. Et là, j'ai été m'inscrire à l'école Catalyse, à Genève, qui est une très bonne école. Je recommande si jamais. Parce qu'ils ont une bonne prise en charge, en fait, de la personne dans sa totalité. Ils sont absolument pas dans le jugement ou pas dans le paraître. Ils vous permettent de vous libérer à 100%, donc vraiment de relâcher tout et puis d'aller dans votre talent au maximum.
Près des eaux vives, non? Il me semble qu'ils
sont. Exactement, ouais, c'est là-bas. Oui. Et donc très bonne école et j'ai eu des profs très bien. Et ils m'ont dit en plus que j'avais du talent, donc j'étais contente. Je dis, c'est super. Et d'ailleurs, j'ai vu le premier cours était très difficile. Je me rappelle pour l'anecdote, je suis arrivée, on était 5, il y avait un piano. Le gars, il fait bon, chacun vos tours, vous allez faire ce texte. Il nous donne une feuille. Et puis moi, je sors de ma douche, quoi, hein, dans le sens, avant ça, j'ai jamais chanté ailleurs. Donc, chacun fait son truc. Puis moi, c'est mon tour. Puis je fais. Puis il s'arrête. Puis il me dit, alors écoute, c'était très bien. Mais là, entre toi et moi, il y a un piano. Donc, je ne t'entends pas. J'étais, alors ça m'a fait redescendre un peu. Mais finalement, après des années de travail et tout ça, ils m'ont fait faire ma première scène et tout ça. Ça m'a donné tellement d'émotions. Ça m'a permis, en fait, de vraiment avoir confiance en moi, ce que j'avais pas du tout avant. Ça m'a permis de me libérer. Et puis, ça m'a donné envie d'écrire des chansons parce que j'ai toujours eu envie de dire des choses aux autres. J'aime communiquer avec les autres. J'ai un côté social. J'aime m'intéresser aux autres aussi. Et puis, j'aime raconter des histoires qui peuvent arriver à chacun de nous. Ou alors des rêves, des envies, des choses comme ça, les retransmettre dans mes morceaux. Et puis, donc, c'est comme ça que j'en suis arrivée à faire les cours, à rencontrer Cash, mon homme, Karim à la vie aussi. Et lui, qui avait déjà plusieurs années à son actif dans la musique en tant que musicien, m'a permis d'accéder à un local avec un vrai groupe qu'on a créé en 2012, Le Grand Bazar. Et maintenant, je suis choriste aussi dans un groupe, et comme on a dit, donc, où je fais les chœurs, ce qui est aussi un autre travail et qui est intéressant, parce que moi, j'aime bien en fait me balader partout, sur
mettre
les
des styles, challenges,
me mettre des challenges, essayer les choses, même si je me dis à la base, j'en suis pas capable, j'ai envie d'y aller, d'essayer, je trouve ça génial. Puis j'aime la musique, quoi. C'est vraiment une passion, c'est quelque chose qui me... Voilà. Puis depuis, on a fait plusieurs concerts pendant surtout 2 ans où là, ça avait bien marché. Puis ensuite, j'ai eu quelques soucis de santé qui fait que le groupe n'a pas tenu pour l'instant. Il nous faudrait retrouver des musiciens pour Le Grand Bazar. Mais à côté de ça, maintenant, je suis arrivée dans le rap avec Cash qui, lui, d'abord a commencé ses morceaux rap. qui m'a attirée dans ce milieu-là, qui n'était pas forcément le mien à la base, mais qui m'a permis de découvrir encore tout un nouveau monde musical, des nouveaux gens, une nouvelle culture, etc.
Est-ce qu'il y a des choses communes que tu trouves dans le rap que tu as également à explorer au moment où tu étais plus dans le côté punk? Je parle en termes d'énergie, en termes de paroles peut-être, de thèmes abordés.
Alors pour moi, de toute façon, le rap et le punk, dans le fond, c'est la même chose. Parce que c'est de toute façon remettre en cause des choses de la société. C'est critiquer justement des systèmes de dictature ou capitalistes, etc. Donc pour moi, ça se rejoint, c'est juste que c'est l'art et la manière qui changent.
Ouais,
c'est juste ça.
Tout à fait.
Mais je pense que c'est deux mondes qui souvent se font un peu la guéguerre alors qu'ils ne devraient pas du tout. Parce que je pense que le fond est le même et puis qu'ils devraient justement se rassembler et puis que la force serait encore plus grande.
Très bien. Avant qu'on revienne là-dessus, j'aurais voulu te questionner sur le chant. Quand tu as dit qu'à un moment donné, tu t'es mise à chanter, on parlait au début de qu'est-ce que ça signifie que de se livrer, de se mettre à nu. Qu'est-ce qui a été le principal choc entre le moment où justement tu chantes pour toi et tu chantes sous la douche et qu'il faut ensuite chanter pour les gens? Est-ce qu'il y a vraiment un fossé entre les deux choses?
Alors pour moi, oui. Ma première scène à l'école Catalyse, je me rappelle, je tremblais de tout mon corps, j'étais trempe de la tête aux pieds, ça se ressentait dans la voix, elle était vibrante, c'était très joli, mais j'étais complètement dans l'émotion. D'ailleurs, les gens l'ont ressenti, ils étaient tous émotionnés aussi. Mais c'était, ça m'a vraiment fait un truc. D'ailleurs, quand après j'ai regardé la vidéo, on est sortis, on allait au parc, et quand j'ai regardé la vidéo, j'en pleurais. J'en pleurais tellement ça m'a, de me voir comme ça, de me dire « t'es capable, t'as pu le faire ». Et puis que les gens, en plus, j'ai eu un bon retour. Les gens sont venus me dire « oh, vous m'avez mis des frissons, c'était quelque chose, on a vu que vous aviez peur, mais c'était génial ». C'est vrai que ça m'a... bam, mais quoi.
Ça a été un long travail pour toi, sur toi.
Et c'est là que je me suis dit « j'ai envie de faire ça
».
J'étais sur la scène et là, je me suis dit « c'est ça que t'as besoin pour être bien et c'est ça qui te plaît et c'est ça que tu aimes, quoi ».
Ouais. Mais après, justement, parce qu'après, c'est un long travail sur soi en termes psychologiques, d'une certaine manière, le fait de se dire « il faut que je me libère sur une scène ». Et est-ce que c'est également un gros challenge au niveau technique? Il faut savoir sculpter sa voix, là, tu vois?
Bah en fait, c'est oui et non, parce que c'est ça qui est assez marrant, c'est que pendant les cours, on vous apprend plein de techniques. Après, là-bas, leurs techniques sont bien, parce que c'est pas non plus toujours la même chose, c'est assez adapté à chacun aussi. Moi, je vois que les fois où je chante le mieux, où ma voix est la plus jolie, la plus vraie, la plus sincère, c'est quand je vais me laisser aller complètement. Après, c'est sûr qu'il y a des exercices qui sont vraiment utiles, par exemple, comme gérer son air. Parce que si on n'a pas un bon débit d'air, on va vite être essoufflé, on va pas tenir la note, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on peut essayer de mettre en place sur scène. Mais je pense que c'est vraiment quand on se laisse aller au maximum que, je recommande à qui voudrait chanter de prendre des cours, de toute façon. Puis je pense que c'est un atout personnel, vraiment.
Ce qui est intéressant aussi, c'est elle a commencé directement dans une école où on est encadré, on a un prof, on a aussi, quand tu vas chanter, on est dans un cadre où c'est comme un peu, comme ici, un peu un studio où il y aura un micro, des retours. La première fois où je l'ai amené dans le local pour que je lui ai dit allez, moi je fais un rythme de batterie, puis toi tu chantes. Puis j'ai commencé à partir sur un shabada sur la ride. Donc déjà le jazz, j'ai pas joué très fort et tout, mais Seeds a commencé à chanter. Et puis là tout de suite elle a senti le live, le son des instruments en live dans un petit studio, dans un petit local. Du coup sa voix était moins jolie, on est dans le brut là du coup. On n'est pas dans la sensibilité de la voix, parce que dans un studio ou dans une école on peut vraiment écouter sa voix dans un micro avec un casque comme
ça change.
Il y a vraiment un côté où on est dans l'énergie et tout, puis après il faut qu'il y ait...
D'ailleurs souvent on se dit on sait pas chanter parce qu'on s'entend plus à cause de la batterie, les instruments, les retours qu'il n'y a pas forcément.
D'accord. Alors on a bien compris que le chant a été et est toujours et restera un défi pour toi et qu'on n'est jamais au bout de ses peines concernant cet instrument, la voix. Qu'en est-il des textes? Est-ce que quand tu composes, les textes viennent d'abord ou est-ce que c'est les instrus qui priment et sur lesquels ensuite tu pose un texte, dans quel ordre ça va?
Alors je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'ordre, parce que c'est ça, c'est jamais pareil en fait avec moi. C'est ça qui est marrant, parce que autant des fois il me faut un mois ou deux mois pour écrire une chanson, des fois elle vient en une nuit quoi. C'est à l'inspiration en fait, je me dis pas tiens là je vais écrire une chanson.
D'accord.
Ça marche jamais comme ça, elle vient en moi comme ça, d'un coup j'ai une petite idée qui me traverse l'esprit, soit en termes de texte, soit en termes de mélodie. Et souvent c'est plutôt la mélodie qui prime, c'est-à-dire que j'ai un petit air qui me vient dans la tête que j'aime bien. Puis après, je le garde, il me tourne pendant 2-3 jours, je me dis bon, mais en fait, je vais peut-être en faire quelque chose. Et puis après, j'ai une idée, ah bah tiens, de quoi j'aurais envie de parler. Puis je me dis, ah bah tiens, ça, c'est un sujet que ça me dirait bien de parler de ça. Et puis hop, puis après, ça me vient, puis j'écris.
Ça peut devenir en une phrase aussi.
Des fois, c'est aussi avec la guitare, parce que je joue un petit peu de guitare. Cash m'a appris à jouer de la guitare, la base, puis après, j'ai appris en autodidacte.
Puis bah, d'ailleurs, maintenant, tu composes aussi la musique, parce qu'avant, elle composait que le texte. Et donc aussi la mélodie, parce que voilà, la mélodie va nous donner l'arrangement, enfin pas l'arrangement, mais les accords à suivre. Donc avant, on faisait un peu les deux, elle s'occupait du texte et de la mélodie, puis moi, je retransposais certains accords de la mélodie sur la guitare pour pouvoir arranger ou un rock, ou un jazz, ou un reggae, ou un... Voilà. Et maintenant, elle compose carrément.
Aussi, donc des fois, je prends la guitare.
Compositeur puis avec la musique, là, elle vient avec la musique et tout.
Donc des fois, c'est aussi juste en jouant la guitare. Je joue un petit truc comme ça, je fais 2-3 accords à la con, puis donc, ouais, tiens, ça c'est joli ensemble. Et puis hop, puis j'y garde, et puis je fais un morceau. Quoi.
Donc on peut dire que c'est très intuitif, très instinctif.
Ouais, c'est plutôt ça chez moi. Ça sort assez comme ça. Voilà.
Alors quels sont les meilleurs moments, justement, les moments les plus propices à ce que cette inspiration surgisse? Est-ce que c'est plutôt la journée en marchant? Tu sais, il y a des auteurs qui disent qu'on ne peut avoir une bonne réflexion qu'en marchant, et puis d'autres disent l'inverse. Est-ce que c'est pendant la nuit, et puis que, comme certaines personnes, tu as un petit carnet à côté de toi, un petit enregistreur, et puis à n'importe quel moment, boum, que ce soit le jour, la nuit, et bien il y a un truc qui vient et tu l'enregistres?
Ouais, il n'y a pas vraiment de moment fixe. Après, comme le loup-garou, quand c'est la pleine lune, je suis beaucoup plus créative, c'est-à-dire que j'ai 3 fois plus d'énergie, je fais de l'insomnie, je dors pas. Alors souvent là, ça peut être créatif, les choses me viennent aussi plus facilement. Mais sinon, non, moi je serais plutôt genre avoir mon petit calepin au cas où, quoi. Toujours sur moi, justement.
Comment est-ce qu'on peut écouter ce que tu composes et ce que tu chantes? Est-ce qu'il y a un site, une page Facebook?
Alors j'ai ma page YouTube, principalement, c'est là où je mets tous mes morceaux. Je viens de me faire une page mx3.ch pour mettre aussi mes morceaux, là, les mieux finis, disons, qui sont moins un peu démo. Parce que c'est ça aussi, c'est qu'on a enregistré beaucoup de morceaux sous forme de démo. Puis maintenant, on commence à les refaire au mieux.
À la base, on avait ce groupe, donc moi, je voulais pas tout composer non plus. Je voulais vraiment qu'on aille ce côté groupe, vous voyez, que nous, on vient avec une base, basse, batterie, guitare, par exemple, et puis les autres musiciens viennent avec des arrangements. Donc, on a vraiment fait des démos très basiques. Même moi, j'ai des trucs que j'écoute, je suis pas très fier de ma batterie. Parce que j'ai fait ça en 10 minutes, j'aurais pu vraiment... maintenant que je vois le résultat, on aurait eu mieux fait de prendre le temps d'enregistrer ces morceaux correctement, puis... ne pas se dire chacun va amener sa touche personnelle. Parce qu'au bout du compte, on n'a pas eu beaucoup de musiciens. Certains musiciens sont venus, ils se sont bien investis. Mais voilà, on arrive à un certain âge où il y a les enfants et tout. Donc du coup, la composition, les gens ne sont pas venus dans notre composition pour amener aussi leur compo. Qui fait que du coup, là, on se retrouve.
Ce que Cash a déterminé par rapport à la mélodie.
Correctement, dès le départ, on fait correctement les choses. Et puis vous faites comme ça. Et puis,
Mais bon, malgré tout, moi, je les kiffe toutes. Mes chansons, il n'y en a pas une que j'aime pas. Donc,
les adresses du MX3 et de la page YouTube, tu saurais les dire comme ça de tête?
Alors, c'est SSIDZZ Titoon pour la page YouTube. Donc, Zitz Titoon. Et puis pour MX3.ch,
vous allez sur MX3.ch, c'est www.mx3.ch, et puis slash SSIDZZ, ou alors dans la barre de recherche.
Voilà, puis de toute façon, on mettra également le lien au libellé du podcast. Quoi.
Après, vu que ton nom de scène, il a couché dehors, SSIDZZ sur Google, franchement, il n'y a que toi qui sors.
Absolument.
Parce que moi, Cash, ça sort pas, il y en a plein des Cash. Moi, il faut faire Cash le méloman, en vrai, c'est ça.
C'est vrai.
Pourquoi ce nom, Zidz?
Bon, alors c'est un
d'où
truc, il n'y a pas une grande histoire derrière, c'est un truc à la con. C'est qu'à la base c'était S-I-D-Z, c'était pas S-S-I-D-Z-Z. J'ai dû rajouter un S en fait et un Z, parce que le Zidz S-I-D-Z était déjà pris. Donc quand je m'y suis mis vraiment pour faire une page, j'ai dit bon non, on va pas prendre le même nom que quelqu'un d'autre, évidemment. À la base, c'est un ami qui passait souvent chez moi il y a quelques années en arrière, avant tout ça, et puis il faisait toujours du tag hip hop sur toutes mes feuilles. Le gars, tu sais, le pote qui vient puis qui ruine tous tes calepins.
Je vois tout.
Tout ce qu'il peut, il les ruine à coups de tag hip hop. Et du coup, moi, vu que je passais des heures avec lui, j'étais à go, je vais faire pareil. Puis j'essayais de faire le tag hip hop comme lui. Puis je me suis trouvé mon tag hip hop qui était SIDZ.
Mais on est d'accord.
Parce que dans ma vie, à un moment, j'ai eu une période où je faisais souvent
Mais on est d'accord qu'à cette période-là, t'étais une punk.
À l'époque, j'étais une punk. J'étais pas du tout dans le hip-hop, pas dans le rap. Je pensais même pas y être un jour, ou faire un rap. C'est ça qui est assez drôle. Et du coup, bah, c'est resté en fait le ZIT. Okay. L'ami en question m'avait fait une jaquette où il me l'avait fait imprimer. Et puis, on va garder ça, on va rajouter le S, le Z, et puis ça a donné voilà. SSI des ZZ.
Et le logo, c'est une silhouette de toi.
Alors, le logo, c'est Gamo qui me l'a fait. Gamo qui est connu à Genève, c'est un graffeur.
C'est un des premiers graffeurs dans les années 80.
Alors, je le remercie encore. Super travail, j'étais très contente. Et puis, il m'a fait ce logo. Et c'est vrai que je le kiffe vraiment beaucoup parce que je trouve qu'il peut justement correspondre à mon clip. Déjà, il correspond beaucoup. Et puis, à moi en tant que petite.
Absolument.
Donc, voilà.
Alors, on va parler du clip dans quelques instants. Mais avant ça, j'aurais voulu savoir si t'étais, toi ou vous étiez à la recherche de dates pour, de concerts ou des... Ou c'est pas encore le moment, vous êtes en phase de travail et puis alors, ce sera pour un peu plus loin.
Ben ça dépend dans quel domaine, c'est-à-dire que moi là actuellement, bon, alors si on prend le groupe Le Grand Bazar, pour l'instant il vit pas trop, parce que justement on a encore perdu quelques musiciens, parce que chacun continue sa route. Moi j'ai eu des soucis de santé, c'est vrai qu'ils m'ont aussi empêché d'aller au répète tout ça. Donc c'est vrai que j'ai pas non plus, tu sais, cette stabilité qu'il faut y avoir dans les groupes pour que ça avance vite et que ça avance bien. Parce que c'est pour ça que je fais quand même ma passion malgré tout, sans avoir des idées de carrière monstrueuses. Mais c'est vrai que voilà quoi, si on arrivait à retrouver des musiciens pour Le Grand Bazar, parce que c'est quand même là qu'il y a mes principales chansons, ben je referais volontiers quelques scènes, parce que c'est toujours un plaisir de partager avec le public, de rencontrer des gens.
C'est un peu un groupe de rock festif.
C'est du rock festif quoi, c'est ça, texte, chanson française, il y a un peu de tout. Et puis après avec le rap, alors je ferais bien aussi, mais pas tout de suite, parce que justement là on est en train de préparer des futurs morceaux. Donc moi j'ai un prochain morceau là que je suis en train d'écrire en rap aussi, un petit peu plus rap-trap on va dire, entre deux, et qui va être cool aussi.
Il y a mon morceau qui va sortir aussi,
aussi
avec Pacific People.
En feed justement avec, sur un morceau de Cash avec Pacific People qui va aussi sortir bientôt. Donc en fait j'attends d'avoir un petit peu plus pour pouvoir aller sur scène faire du rap, parce que je trouve que bon d'arriver avec deux morceaux, voilà.
Après t'as déjà fait de la scène avec moi quand tu m'as
baqué. Après ouais, j'ai déjà baqué Cash, c'était comique. Il me dit allez tu me fais les bacs, moi qui n'ai pas fait de rap dans ma vie, bah allez on fait les bacs, c'est parti. Mais c'était vachement cool. D'ailleurs on nous retrouve sur YouTube, sur ma page et aussi sur celle de Cash où on a mis les vidéos de ce concert de rap qui était à la ferme Marignac.
Ah, la ferme Marignac, à Grand Lancy. Voilà,
exactement, le 13 mai, là, on l'avait fait et c'était vachement cool.
En plus, un joli endroit, on voûte comme ça.
D'ailleurs, ça, c'était une sacrée journée parce qu'on a envoyé avec tous nos groupes.
Oui, c'est vrai que ce
on s'est tapé toute une journée de concert, de trois concerts à la suite, avec les Comme on a dit, avec le Grand Bazar et après Cash a fait son rap où je l'ai baqué.
Ok,
disons. Voilà, fait 3h30 de concert.
On a fini à 1h du matin, on était raide, quoi.
Ouais, c'était
super. C'est que tu as une belle résistance.
Après,
en tout cas, j'ai l'envie.
Juste pour. On peut lancer cet appel. Alors, pour le Grand Bazar, le Grand Bazar est à la recherche de musiciens.
Donc, le Grand Bazar, en fait, aurait besoin d'un guitariste rythmique, principalement déjà. Un guitariste rythmique et même un deuxième guitariste moins rythmique,
grades,
ce serait bien. Deux guitares déjà, ce serait super. Après, dans l'idéal, quand j'ai créé ce groupe, moi je me voyais avec une section cuivre, je me voyais avec un accordéon, un accordéon, voilà. Parce que moi je kiffe
ça,
pour cette
musique. Je pense que ce sera sûrement le plus dur à choper, c'est un accordéoniste.
C'est donc c'est vrai que voilà, enfin nous, moi je suis assez ouverte à plein de musiciens, quoi, dans le sens.
D'accord.
Alors, on aimerait faire un peu avec ce style, avec ce groupe, un peu style, ça y est, les hurlements de Léo, ce genre de musique.
Oh là là.
Voilà, on aimerait
c'est
faire
dans ce délire-là, quoi, un peu festif, quoi, ou qui passe un peu délire. Partout. Mais
dans l'ambiance de musique française,
quoi,
festive.
C'est festif que ce soit un peu.
Ouais, il y a tout un courant comme ça, les Épinoirs également, enfin plein de groupes. Fantastique.
Après, je voulais revenir juste par rapport au vous avez parlé de dates. On a quand même trois concerts cette année avec les Comme on a dit. Donc ça, c'est le groupe
où
Sitz fait les chœurs. Donc voilà, on a une date pour la fête de la musique au mois de juin.
À Schönbourg.
À Schönbourg.
Sur la
et puis autrement, on a deux petites dates aussi sur France.
D'accord.
Donc on a quelques dates.
Agency.
On va pas en termes de rap. Moi, j'aimerais bien peut-être encore faire aussi un concert cette année, mais pour l'instant, on n'a pas de date prévue vraiment.
D'accord. Bah justement,
ça ferme le chapitre date et tout ça.
On a entendu justement qu'est-ce qui a mené Zitz à la musique. Eh bien, et toi, Cash, alors comment est-ce que tu t'y es retrouvé?
Donc, je suis né dans les années 70 et depuis que je suis tout petit, j'ai cette faculté de pouvoir dissocier la musique. Donc, j'entends la basse, j'entends les guitares, j'entends les batteries, tout bien distinctement. Je pense que ça, c'est un truc que j'ai, parce que j'ai jamais appris de musique. Je fais de la batterie, de la basse, de la guitare, je peux chanter. Enfin, voilà, je suis assez autodidacte et assez fort là-dedans parce que je pense que j'ai une bonne oreille.
Ouais,
j'arrive à... Donc, depuis tout petit, la musique m'a intéressé. J'ai demandé, je sais pas, j'avais 8 ans, si je pouvais avoir une batterie à ma mère. J'habitais à l'étoile des palettes à l'époque. Donc c'était juste pas possible dans les années 70 d'avoir une batterie, c'était pas possible.
Bah non, évidemment, avec le voisinage.
Ouais, déjà. Et puis ma mère, c'était, c'est grand, parce que ça, ça me fait toujours halluciner. Elle me dit, oui, va faire tes devoirs, et puis si tu fais tes devoirs, t'auras une batterie demain. Puis bon, moi, le matin, je me réveille, je vais pour aller à l'école, complètement oublier l'histoire, je vais dans la cuisine, et puis là, elle m'avait sorti toutes les casseroles. Avec les deux fouets, puis voilà, voici ta batterie, entre parenthèses, de cuisine. Bonne journée chérie, machin. Voilà, je suis tunisien, mon cousin m'a offert une guitare, alors que, en plus en Tunisie, voilà, enfin pour moi c'est un truc de dingue qu'il m'a offert sa guitare. Et en fait c'est parti de là, 14 ans, j'ai eu ma guitare, j'ai commencé à, jamais pris de cours, donc je regardais Iron Maiden à la télé ou les cassettes vidéo. Et puis voilà, j'ai un peu appris comme ça sur le tas. Après, avec des copains, on a commencé à avoir notre local au Grand Lancy. Puis voilà, on a commencé à faire des concerts en 2001. Mm-hmm. Donc voilà, moi j'ai toujours voulu jouer de la batterie, mais voilà, dans ce premier, quand j'ai eu le local, moi j'ai plutôt été au chant, parce que mm-hmm. là, j'avais pas de matériel, j'avais pas d'instrument. Puis ben, au fur et à mesure, j'ai commencé à mettre à la batterie, à la guitare, donc voilà, maintenant je joue vraiment tous les instruments. Là, maintenant, ça va faire 19 ans, je crois, que je suis voilà, actif sur la scène genevoise, toujours un peu dans l'ombre. Et puis voilà, c'est pour ça que maintenant dans le rap, je suis un peu plus devant. On a aussi oublié de dire, Sitz, qu'en fait, on a aussi dans... on a apparu dans un projet de Sentence. C'est un rappeur genevois qui est du collectif Effet Très Spécial.
Ah, vous les avez
vu, Effet Très Spécial, vous les connaissez. Hein. Voilà. Donc Sentence est un rappeur de ce collectif et il nous a invités sur son album solo qui s'appelle Des mots à penser. Donc j'invite tout le monde à aller voir vraiment, écouter son disque,
il est
album, super bien,
que ce soit musicalement,
voilà, il est magnifique,
c'est de la tuerie.
Il y a 18 titres, donc moi, je vous conseille www.sentence.info, allez écouter son album, si vous voulez l'acheter, ouais. Vous pouvez aussi. Et voilà, il nous a demandé de venir faire un feat dans son album. Et du coup, là, Sitz, elle a dit, mais moi, là, ce coup-ci, parce que moi, plein de fois, j'ai demandé à Sitz de venir sur mes chansons de rap, mais je la faisais chanter, les refrains. Donc lui, elle s'est dit, non, moi là, si je veux être...
rapper.
Voilà, je veux rapper. Donc là, c'est son premier rap aussi. Vraiment, c'est son premier rap.
Que je lui ai demandé, je lui ai dit, ça me tenait à cœur. Ouais. Je lui ai dit, écoute, j'ai envie d'essayer, parce que je le sens, j'ai envie d'essayer de rapper, quoi. Ouais. Pour une fois, et puis du coup, j'ai écrit un texte.
T'en es bien sorti.
Et je m'en suis bien sorti. En plus, c'est une dédicace à Taz, que tu connais très bien. N'est-ce pas?
Bien sûr.
Donc ça parle de lui, ma partie à moi, qui parle de tous ces problèmes qu'il a à cause de ces saletés de policiers et puis des avocats corrompus et toute cette merde, n'est-ce pas? Donc c'est une dédicace à lui. C'est pour ça qu'il faut tous aller écouter. Tous ceux qui soutiennent Taz, n'hésitez pas.
Le morceau s'appelle Trafic d'influence.
Trafic d'influence.
Donc sur l'album de Sentence. Donc ça, c'est la première fois qu'elle sort en fait une chanson officielle de rap. Donc il est sorti le 24 décembre 2018. Maintenant, elle a son clip de Vice Caché qui est sorti. Mm-hmm. Donc, en fait, 2019, c'est un peu l'année rap de SSIDZZ. Parce que, comme elle a dit avant, elle a un projet aussi sur mon prochain morceau, en featuring, avec Pacific People, un rappeur de Fribourg. Tu as ton autre morceau, le Sengay...
Sengengaro, il va s'appeler.
Voilà, ça, c'est sur une de mes instrus.
Sengengaro.
J'ai tapé l'instru pour son lien, elle est venue une fois, elle m'a fait écouter elle voir une instru sur internet, puis elle me fait écouter son rap et tout, puis là j'étais là, waouh, c'est de la tuerie, écoute, je vais essayer de te refaire à peu près la même instru, je vais te la taper, comme ça on n'a pas de problème de droit, machin, ouais. Et tu me tapes ce morceau. Donc là on est dessus,
on est en train
elle m'a demandé
travailler,
aussi d'être en featuring, donc je serai sur son featuring,
ouais. Mais c'est
sur
son morceau.
Tu dis comme ça, ça inverse aussi, puis ça me fait plaisir pour une fois, c'est dans le temps, c'est
exactement.
Qu'il participe.
Et puis de changer de posture,
exactement.
Après, je suis toujours derrière, de toute façon.
Non, moi, je tiens juste à rajouter un truc, c'est que j'ai remarqué, par rapport à ma santé, je dis, le chant me demande beaucoup plus d'efforts physiques, parce que je vais aller chercher dans mon dos, je vais aller chercher dans mon ventre, je vais aller chercher dans mes voies de tête, dans mes machins, mes trucs, et justement à cause de toute la technique qu'on m'a donnée, alors que le rap, j'ai pas ça, parce que c'est avec ma voix de parler qui fait que ça change beaucoup aussi. Mm-hmm. Mais je mets quand même du chant dans mes raps, un petit peu pour dire,
tu peux pas t'en
approcher.
T'es chanteuse quand même à la base.
Là, on sent que c'est vraiment une passion, que c'est extrêmement important pour vous. Est-ce que ça pourrait devenir un métier? Ou est-ce que justement, il faut pas? Enfin, c'est toujours un peu compliqué, ça. Parce que...
Moi, personnellement, j'aimerais que ça...
Ouais, quand même.
Alors moi, pour Kaz, j'ai aucun doute que lui, ça pourrait faire son métier. Moi, j'ai un peu du doute. Alors, c'est vrai que j'ai aussi un manque un peu de confiance avec moi-même. Est-ce que j'arriverai à assurer? Mais c'est surtout à cause de ma santé. Et puis, j'ai deux enfants quand même, dont je m'occupe seule. Donc, voilà.
Les enfants, c'est primordial.
11 et 15 ans, c'est vrai que c'est des âges, entre guillemets, critiques. Faut être là, faut être présent tout le temps, etc. Donc, je me vois pas dire, maintenant, ce soir, je vais aller faire concert là-bas, demain là-bas, après-demain là-bas, etc. Parce que pense que là, je ne pourrais pas techniquement. Mais c'est vrai que si, vu que je suis pas encore assez jeune physiquement, peut-être que quand j'aurai 40 ans, j'en ferai que 30. Et puis là, peut-être il y aura encore un espoir que je puisse, à ce moment-là, envisager une carrière. Donc c'est comme je dis, moi là, ce qui serait cool, c'est de faire quelques scènes par année. Je trouve ça chouette. C'est quelques rendez-vous. Quelques fois, on se fait voir, on voit les gens.
Des fois, on est un peu payé, donc c'est cool aussi.
De temps en temps, en plus, on est payé. Donc moi, c'est ça, quoi. Je pense que pour l'instant, je verrais ça qui serait bien plutôt qu'une vraie carrière de musicien comme longtemps.
D'accord. Non, parce qu'après, ça nécessite aussi une autre infrastructure. Hein, quand il faut organiser une tournée.
Là, le problème, c'est qu'on c'est moi qui produis tout, en fait. Bah, là, j'enregistre les groupes dans lesquels je joue. Genre, je tape les instrus, je les mixe, je masterise.
Tu fais les clips, les montages vidéo,
maintenant, on va arrêter ça,
dernier,
parce que justement, avant, je montais mes clips, mais c'était pas un niveau, je peux pas être partout. Puis là, on a vu, on a passé par très spécial production. Les caméras sont à un autre niveau, le montage c'est un autre niveau. Du coup voilà, ton clip il est vraiment classe parce que on a passé par cette boîte de prod.
Une fois on a eu envie de voir un niveau juste un peu plus haut, une vraie prod pour voir ce que ça donne
une
autre qualité. Et puis c'est parce que ce clip là me tenait particulièrement à cœur, donc c'est pour ça.
Je passe beaucoup de temps derrière le PC à produire seeds, à produire les comme on a dit. Et puis tout ça c'est du temps. Puis
c'est pour ça aussi que je tenais à ce qu'il soit là avec moi aujourd'hui, je trouve important qu'on puisse parler aussi de tout ce travail qu'il fait, et puis que c'est grâce à lui quand même que pas mal de nos groupes vivent, et puis notre musique est là.
Il faut avoir le temps de laisser l'inspiration et de cueillir cette inspiration, donc il faut pas non plus qu'on soit noyé par toute la technicité qui est bien entendu essentielle, fondamentale, mais
primordiale actuellement de toute façon.
Revenons-en à ce clip alors. Voudrais-tu nous dire l'histoire de ce clip et qu'en est-il actuellement ?
Alors, Vice Caché, c'est vrai que c'est le clip qui me tenait là de tous ceux que j'ai fait et puis de tous les morceaux que j'écris le plus à cœur, parce qu'en effet c'est assez personnel, parce qu'il parle de ma vie que j'ai eue étant jeune. Mais avant tout, c'est surtout un message aussi pour dire que justement j'ai eu un début de vie très difficile, mais que malgré tout je m'en suis sortie. J'ai pu sortir de ces contes de fées, comme j'aime à le dire, qu'on m'a mis dans la tête et qu'on m'a fait croire, pour créer ma propre réalité. Et je pense qu'on peut tous le faire, en fait. Je pense qu'on ne s'en rend plus assez compte. Je pense qu'il y a beaucoup de jeunes à l'heure actuelle qui doivent être perdus dans ceux qui vivent des choses difficiles et qui peuvent se dire « Ah, c'est foutu, c'est figé, ça va pas bouger ». Ben non, justement, mon clip, il est là pour t'ouvrir les yeux en te disant « Écoute, si, tu peux y arriver, tu peux t'en sortir ». Et puis j'aimerais aussi mettre le point sur « Il faut pas hésiter à aller demander de l'aide ». Parce que c'est pas une honte que d'avoir une salle vide, d'avoir des sales parents ou de vivre des sales choses, c'est pas du tout une honte. Il faut pouvoir justement l'accepter et ne pas hésiter à demander de l'aide. Moi, j'ai souvent demandé de l'aide dans ma vie, pas au début, mais par la suite, quand j'ai entamé mon travail pour aller mieux, pour accepter tout ce que j'avais subi, et puis pouvoir en faire une musique, quelque chose de justement un peu plus aéré, plus léger, de positif. Malgré tout ça, voilà, je pense qu'on peut s'en sortir, qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Et puis, c'est important pour moi, quoi, que les gens l'entendent, quoi. qu'ils puissent s'en rendre compte.
C'est dur, justement, là, de se mettre à nu comme ça, de se livrer de cette manière-là. Est-ce que ça a pris du temps ?
Moi, je trouve que c'est fort.
Alors, c'est vrai que ça a pris un peu du temps, mais en même temps, c'est un peu mon arme, en fait. C'est-à-dire que moi, je m'en suis beaucoup sortie parce que j'ai accepté. C'est-à-dire que j'accepte d'en parler, j'accepte de me mettre à nu et puis de le dire. Et puis, j'ai pas honte. Moi, j'ai eu un père pédophile. J'ai pas eu de chance. C'est comme ça. Il tombait pas sur le bon, qui nous a pourri la vie, qui a fait que des sales choses. Et malgré tout, j'en suis sortie. Je me suis pardonnée à moi-même tout ce que j'avais à pardonner. J'irai pas jusqu'à dire que je lui ai pardonné, mais j'ai accepté que ce soit arrivé, que ce soit quelqu'un qui ait fait ces choses-là, et tant pis. Et je suis passée à autre chose. Vraiment, j'ai pu faire mon travail avec ça.
Faire des enfants, parce que avoir une vie normale.
C'est sûr que je l'ai un peu pris toujours comme ce qu'on m'a donné, c'est pas cool. Mais à un moment, il faut se dire aussi tu veux pas de ce qu'on t'a donné, change-en et puis fais autre chose, quoi. Et puis.
Vis-à-vis de tes enfants, comment est-ce que si tes enfants te posent la question sur qui est grand-papa ?
Alors, ils sont déjà informés, parce que moi, je suis une maman qui, justement, j'ai rien caché à mes enfants. Dans ma vie, ça m'est arrivé de faire une cure. Parce que malheureusement, à 14 ans, on m'a mis à la rue. Donc, je me suis retrouvée dehors. Et puis, la rue, tout ça, ça amène souvent pas forcément que du positif. J'ai fait le choix de me droguer quand j'étais jeune. Et j'ai fait le choix de me mettre en cure aussi assez rapidement pour arrêter tout ça. Mais tout ce travail, je veux dire, mes enfants, je leur en ai parlé. Comme ils ont su que j'ai été à la rue dès 14 ans que je me suis assumée. Ils savent que le grand-père, en effet, c'est un pédophile. C'est quelqu'un de mauvais et de malsain. que si un jour, je leur ai toujours dit, si un gars il vient vers toi, salut, je suis ton grand-père, tu pars en courant, tu vas vers un adulte, évidemment, parce qu'il y a toujours cette crainte un peu qu'ils reviennent un jour.
Parce que là, il est quand même écarté, enfin, le danger est éloigné.
Ah oui, oui, bien sûr, parce que évidemment, quand j'étais petite, il y a eu un procès qui est passé dans tous les journaux de Genève. Bah, disons que quand j'étais petite, qu'il y a eu le procès, lui n'a plus eu l'autorisation, évidemment, ni de contact, ni de rien du tout avec nous, ce qui était normal. Il a quand même réessayé quand j'ai eu 12 ans. J'étais placée en foyer. Il a essayé de venir au foyer en disant « Oui, j'ai changé, vous savez, au directeur, donc j'aimerais voir ma fille. » Alors moi, évidemment, j'ai pété un plomb. J'ai insulté le directeur quand il m'a dit ça. « Oui, mais tu sais, peut-être qu'il a changé ton père. » J'ai dit « Oui, bien sûr, foutage de gueule. » Donc j'ai dit « Non, non, il n'y a pas moyen. » Et à partir de là, j'ai plus jamais eu aucune nouvelle. Mon espoir, c'est qu'il soit malade, très atteint, en train de souffrir dans un coin, et puis qu'il en meure. On va pas se cacher.
Non, mais
mais voilà, je pense que je me sens plus en danger vis-à-vis de lui, parce que voilà, maintenant je suis une adulte, je suis responsable, ouais. Je suis grande, j'ai accepté tout ça. Je veux dire, je pense que j'ai plus cette crainte.
Il va en faire de la résilience et en faire quelque chose. Est-ce que de ça, de ces blessures terribles, tu arrives à en tirer de l'énergie ou une forme de force pour pouvoir aller de l'avant?
Oui, justement, parce que pour moi, c'est justement ne pas donner de la force à cette personne qui m'a fait du mal. C'est moi qui ai montré que moi, je vaux mieux que toi. Moi, je suis plus forte que toi. Moi, je m'en sors. Moi, j'ai réussi. Et puis, fais ce que tu veux. Tu ne m'atteins plus. Plus jamais, tu m'atteindras. Donc, c'est ça. Donc, pour moi, oui, c'est une force, quoi. Mmh. Et c'est
après, ouais. T'as fait un travail sur toi aussi.
Parce que, oui, j'ai fait mon travail. Hein. J'ai vu des psys, j'ai fait évidemment des thérapies. Voilà, avec moi-même aussi, j'ai dû faire un travail. Le chant m'a beaucoup aidé, justement.
On peut dire que ce clip fait partie, d'une certaine manière, d'une forme
aussi,
de thérapie.
Aussi, c'est une forme de thérapie.
Alors, où peut-on le voir, ce clip sur,
Alors, on peut le trouver sur ma page YouTube, justement. Mmh. Après, bon, j'ai aussi une page Facebook, sous It's Titoon, pareil, où je le diffuse un petit peu. Bon, j'étais bloquée quelque chose, c'est pour ça que j'avais mis mon truc.
Oui, comment ça se fait ça,
je sais pas, je pense que peut-être ils ont, je sais pas, peut-être vu que j'ai mis le teaser pendant 3 jours ou 4 jours, j'ai mis à la suite sur les groupes. Peut-être qu'ils ont estimé, vu que je mets souvent le même dialogue, je refais juste un copier-coller, hein, je m'embête pas trop. Même. Donc du coup, je pense que peut-être ils ont estimé que j'en avais trop mis, ou je sais pas, ou alors c'est un particulier qui a bloqué juste la publication, je sais pas. Donc, en tout cas, je me suis retrouvée bloquée pendant 3 jours, puis c'était juste quand le clip sortait au milieu. Ouais, c'est pas faux. Et puis ensuite, là, on m'a rebloqué. Dès que j'étais plus bloqué, je me dis, bon, je vais partager le clip vu qu'il est sorti. Je mets dans 3 groupes différents, juste une publication. Paf, rebloqué jusqu'au 25. Bon. Donc, tant pis. Alors là, j'ai fait des identifications juste avec mes amis. Et puis, j'ai été super contente et je les remercie tous beaucoup qu'il y ait un retour et que les gens partagent. Et puis, on joue le jeu. Et puis, c'est plaisant.
Mais on le retrouve sur ta page YouTube, donc.
Mais sur la page YouTube, c'est là où on le retrouve principalement. Et puis, il y a le morceau aussi sur mx3.ch, bien sûr, voilà. À l'écoute et en téléchargement gratuit pour ceux qui auront envie de le télécharger gratuitement. Et d'écouter plus.
Il est en lien dans la description sous ta vidéo.
Voilà,
donc, c'est www.sixtytoon, enfin YouTube Sixtytoon, c'est ça?
Mm-hmm.
Donc, ouais, ça,
SixtyToune.
C'est quoi l'avenir de ce clip pour toi? Est-ce que l'idée, ce serait d'en faire quelque chose d'une certaine manière? Ce serait, pourquoi pas, qu'il accompagne, pourquoi pas, même une forme de témoignage que tu pourrais avoir dans des lieux où les enfants sont beaucoup là, pour peut-être également les sensibiliser, les rendre alertes?
Alors, je t'avouerais qu'à la base, l'envie que j'aurais, j'y avais pas forcément réfléchi de cette manière-là, mais c'est vrai que moi, je suis une personne où je serais assez ouverte, tu vois, à le faire, du moment que ça peut aider d'autres, en fait. Mm-hmm. C'est ça, je le ferais pas juste pour, pour parler de moi, je m'en fous de parler de moi, mais je dis, si ça peut aider d'autres jeunes, si ça peut... Ouais, si ma propre expérience et puis mon propre vécu, bien qu'il ait pas toujours été heureux, mais qu'il le soit aujourd'hui, peut venir en aide à d'autres jeunes et puis même juste leur permettre de se dire bah tiens, moi aussi je peux parler de ce qui m'arrive aussi. Mmh. Et pour moi, ça c'est très important, c'est qu'il faut qu'on puisse oser parler.
Après, c'est pas évident parce que quand t'as un enfant qui est écrasé,
justement, mais c'est pour ça qu'il doit sentir qu'il y a aussi des adultes qui étaient enfants avant qu'on vécu ça, sur qui ces jeunes-là puissent compter.
Oui, puisque tu as dit tout à l'heure, savoir demander de l'aide, c'est quelque chose qui est important à dire et à redire.
Mais qui est très dur en tant que victime. Absolument. Au début, parce qu'on se sent coupable. On se sent coupable. Tu sais, quand tu as vécu des sales trucs, je veux dire, tu te dis, c'est moi qui ai mal fait les choses, c'est de ma faute, peut-être j'étais trop ci, peut-être j'étais trop ça. Puis en plus, si tes parents derrière n'ont pas assuré les autres parents restants, puis qu'ils ne sont pas dans le bon move, tu te poses encore plus de questions. Et c'est vrai que c'est très dur. Mais moi, je vois que c'est vraiment ce qui m'a permis...
Après ces années de recul, si tu te retournes en arrière, est-ce que tu vois des choses que tu aurais fait différemment ou pas spécialement?
Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas vivre avec des regrets. D'accord? Donc, je regrette rien. C'est-à-dire que je me sois droguée, que j'ai vécu dans des squats, que j'étais pas toujours tac, je le regrette pas. J'ai pas assez de regrets vis-à-vis de ça. Je pense que c'est la vie que j'ai eue, c'est comme ça, ça s'est fait comme ça. Et puis c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui, parce que les choses auraient été différentes. Bah, ma vie serait différente aujourd'hui, vu que tout a répercussion et puis tout a... Tu vois.
D'accord. Donc, et concernant tes enfants, parce que tu es donc une jeune maman, tu as deux enfants, tu as dit, qui entrent dans l'adolescence, période relativement critique.
Ouais, surtout à 15 ans, là, pour le grand.
Alors, qu'est-ce que tu as envie de leur dire?
Puis ça me fait très peur avec l'adolescence que moi j'ai eue.
D'où cette question. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, d'une certaine manière, pour les armer, les alerter, les prévenir et les prémunir de tout ce qui peut leur arriver quand t'es enfant et adolescent?
Ben ça, c'est un peu ce que je fais au quotidien déjà depuis des années avec eux, hein, parce que en tant que parent, tu préviens tes enfants déjà dès le départ au maximum. Donc ben moi, ce que j'essaye, vu que j'ai eu cette conscience et que j'ai vu beaucoup de choses et que je sais comment ça se passe dans beaucoup de milieux, dans beaucoup de domaines, etc., donc j'essaie de les prévenir. Surtout, c'est-à-dire que je vais lui dire, tu sais, si tu sors, il faut faire attention, tu vas pas boire dans n'importe quel verre, tu bois pas dans le verre des autres, on peut t'y mettre de la drogue, on peut ci, on peut ça. Donc j'essaie de les prévenir de cette manière. Quand ils étaient petits.
Il
n'y
a pas de mot tabou non plus dans la maison, ce qui fait que tu
non, bah c'est ça, avec moi, mes enfants, ils peuvent me parler de tout. J'aurais toujours dit, la maman, c'est la maman, moi je serai toujours là pour vous, quoi qu'il se passe. Mais je dis, ils peuvent me parler de tout, il n'y a pas de sujet tabou. Donc c'est vrai que moi, c'est comme ça, ma meilleure arme, c'est qu'ils aient cette conscience ouverte par rapport à d'autres enfants. Je vois de leur âge qui viennent à la maison. Les miens sont 10 fois plus ouverts, 10 fois plus de conscience, ils savent 10 fois plus de choses. Et je pense que c'est difficile pour eux d'avoir une maman aussi ouverte, d'un côté, parce que par rapport aux autres enfants, ils sont un peu décalés. Mais en même temps, pour plus tard, je pense que c'est une sacrée arme.
D'accord, et puis on peut dire que ça renforce vos liens en tout cas.
Et puis nos liens sont vraiment plus forts, parce qu'il n'y a pas de mensonge entre nous.
Alors on arrive tout doucement au terme de cet entretien, mais c'est vrai que ce sont des sujets extrêmement importants. Moi ce que je vous propose, c'est qu'on puisse une fois en reparler plus longuement et puis peut-être mettre justement le focus là-dessus pour doucement conclure ce dont on parle en ce moment. Donc on peut vraiment dire que pour tous les deux, quoi qu'il en soit, la musique est une passion certainement, mais qu'elle contient également des vertus, on pourrait dire pour le moins pédagogiques. Pour le moins également d'accompagnement d'une vie.
En tout cas, pour moi, quoi. Après, pour Cash, je ne sais pas, parce que moi, de comment je le vois, moi, je pense que Cash, c'est plus vraiment musical, enfin, qu'il a moins besoin que moi de faire. Je pense que tu fais moins un travail à travers la musique que moi. Dire
moi,
que
je suis
justement,
pas dans
les... si moi je suis pas bien, comme tu as dit avant, on se met à nu. Donc, si moi je suis dans une journée où je vais pas aller bien ou quoi que ce soit, ça va être très dur pour moi. Ça va être un travail de chanter, tu comprends?
Bien sûr.
Tandis que Karim, ça coule.
C'est normal, c'est des aventures différentes.
Et pourtant, c'est une passion.
Ce que je trouve génial, parce que de nouveau, là, le côté. Moi, je parle des choses dans mes textes qui sont des critiques du système. Ça peut être les banques, ça peut être. Les puces RFID, ça peut être, voyez, des choses qui moi vont me déranger, puis je vais être dans quelque chose de plutôt négatif. Je vais traiter le sujet un peu plutôt négativement, et c'est ça qui est génial pour les personnes qui pourraient nous suivre, qui regarderaient, je vais regarder Cash, je vais regarder Seeds, donc ils verraient qu'on a à peu près le même discours, mais sauf que Seeds, elle a une vision, on va dire, plutôt positive, et moi j'ai la vision plutôt un peu négative et un peu agressive.
Ouais. Un peu, tu as plus ce côté colère. Ouais. Moi, j'ai plus le côté de je mets en avant que c'est pourri, mais il y a toujours la petite fleur qui ressort pour dire c'est pourri, mais t'inquiète pas, on va y arriver.
Moi,
c'est plutôt ça. Ouais.
Donc, pour moi, il y a vraiment peut-être pour Seeds le travail pédagogique, peut-être aussi.
Et puis même un peu thérapeutique, on
peut dire. C'est ça que je voulais dire. Ouais.
Moi, ça m'aide à avoir une confiance en moi au quotidien, puis à m'affirmer.
Si je peux aider les autres alors qu'elle ne réfléchit pas à me dire comment.
Il y a l'action qui est importante.
Elle va vraiment se poser la question de j'aimerais que. Il y a un message à passer.
Ouais, moi, j'ai toujours quelque chose à dire, j'ai toujours des histoires à raconter.
La musique, quoi. Et puis voilà, je vais juste dire aussi Cash, pourquoi Cash? On me demande des fois aussi. En fait, Cash, c'est pas Cash avec l'argent ou quoi que ce soit, c'est K-A-S-H, Karim, anti-servitude humaine. Parce que justement, mes textes parlent souvent, enfin voilà, je mets en.
Voilà,
j'avais bien lu tout ça.
Les soucis.
Comme on a parlé de plein de choses et qu'on arrive au bout, parce qu'en fait, il y a la manif qui appelle, on est obligé d'y aller. Ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un deuxième épisode, si ça vous dit de revenir, parce que comme ça, on aura le temps justement d'aborder. Là, c'est vrai que du coup, on a un peu moins parlé de Cash, de ton univers et de ce que tu faisais. Mais
ouais, surtout que j'aimerais bien qu'on en parle la prochaine fois justement un peu plus.
Et puis creuser aussi, creuser plus loin tout ce que tu viens de nous dire concernant justement le rôle de la musique, également concernant les enfants. Nous, on est très sensible à ça. On est en face d'une bibliothèque et on siège dans un local partagé avec SOS Enfants. Donc
c'est pour ça que justement je trouve que ça se prêtait bien là.
Alors je vous propose qu'on s'arrête là pour aujourd'hui et puis on se donne rendez-vous pour une prochaine fois sans faute.
Nickel, ouais, merci pour l'accueil.
Beaucoup de plaisir, avec beaucoup de plaisir.
C'était plaisant. Merci aux auditeurs qui nous ont écoutés.
Et puis, j'espère qu'ils nous contacteront pour avoir éventuellement des questions que l'on vous fera parvenir, quoi qu'il en soit. Super. D'accord.
Merci à vous.
Pas de souci.
Bon week-end.
Merci à tous. Et bon week-end.